Donc, pour vous rappeler que la maladie thromboembolique veineuse, c'est une maladie très fréquente. En gros, en France, 40 000 embolies pulmonaires par an. C'est une maladie qui est fréquente et c'est une maladie qui est multifactorielle, qui met en jeu des facteurs liés à l'environnement et des facteurs qui sont liés aux patients. Et parmi ces facteurs de risque pour développer une phlébite ou une embolie pulmonaire, il en est deux qui se compliquent particulièrement fréquemment de cette pathologie, qui sont la chirurgie d'une part, pas toutes les chirurgies, mais certains actes chirurgicaux, la chirurgie orthopédique, la chirurgie carcinologique, la chirurgie abdominale, et puis l'hospitalisation, l'alitement, l'immobilisation pour une raison médicale, qui sont donc toutes les deux facteurs de risque importants de maladie thromboembolique veineuse. Je vais ce matin focaliser mon propos sur la situation médicale aiguë. Je ne parlerai pas de chirurgie, je parlerai simplement de la situation médicale aiguë. Et dans cette situation-là, le risque de maladie thromboembolique veineuse, il est augmenté d'un facteur 8. Et quand on regarde, c'est à peu près un quart des malades qui développent une maladie thromboembolique veineuse au décours d'une hospitalisation et ou d'une immobilisation. Donc c'est une situation particulièrement fréquente qui a fait l'objet d'une intense recherche pour essayer de prévenir la survenue de cette pathologie, et on va voir comment. Alors, ce risque, il est effectivement assez important, et quand on regarde dans les études qui ont comparé un traitement anticoagulant préventif par rapport à un placebo et qu'on regarde l'analyse dans le bras placebo, eh bien vous voyez que chez les malades médicaux, la survenue d'un événement thrombotique, le plus souvent asymptomatique, ça survient chez les malades en situation médicale en gros entre 15 et 20%. C'est nettement moins que après une chirurgie générale, 25%, et c'est encore moins après une chirurgie orthopédique, où c'est plus de 50% des malades qui, au décours d'un acte chirurgical, vont développer un événement thrombotique, là encore, le plus souvent de façon asymptomatique. Donc, c'est une situation fréquente et les facteurs de risque pour développer une complication thromboembolique au décours d'une hospitalisation, il y a des études qui ont évalué ces facteurs de risque. De ces études sont sortis un score prédictif, le score de Padoue, et ce score vous met en évidence des facteurs de risque, la présence d'un cancer, un antécédent thromboembolique, la mobilité réduite, la présence d'un facteur thrombophilique connu, une chirurgie ou un traumatisme dans le mois précédant l'hospitalisation, l'âge qui est un facteur de risque très important, d'autres comorbidités. Vous voyez qu'un nombre de points est associé à la présence ou à l'absence de chacun de ces items. Vous faites le total de ces points et lorsque le score est supérieur ou égal à 4, on est considéré comme étant à haut risque. Et ça, c'est environ 40% des patients qui sont dans cette situation, qui ont un score supérieur ou égal à 4. Et en l'absence de thromboprophylaxie, eh bien, une maladie thromboembolique veineuse survient chez 11% de ces patients. Alors que lorsque l'on est à bas risque, eh bien 0,3% des malades vont développer un événement thromboembolique. Alors, on a différents moyens pour prévenir la survenue de cette maladie et différentes molécules ont été testées dans la littérature. Les premiers essais ont été réalisés avec l'héparine non fractionnée. Ce sont des essais très anciens avec des collectifs de malades, à l'exception d'une seule étude qui est relativement peu importante. Ce sont des études le plus souvent en ouvert, rarement en double aveugle, et les méthodes de diagnostic de la maladie thromboembolique utilisaient rarement des méthodes recommandées. Plus récemment, des études ont évalué l'héparine de bas poids moléculaire ou le fond d'heparinux contre placebo. Là, on a des études un peu plus récentes avec des collectifs de malades plus importants. Vous voyez que ce qui était testé était donc soit le plus souvent de l'énoxaparine pendant une durée entre 14 et 21 jours. C'était des études le plus souvent en double aveugle. Et là encore, c'était des études dans lesquelles on souhaitait détecter des événements systématiquement, des événements asymptomatiques par la réalisation systématique d'un examen d'imagerie, soit une phlébographie, soit une échographie veineuse. Parmi ces études, vous voyez qu'il y en a trois qui ont les plus récentes, dont je vais vous détailler les résultats et qui ont apporté un certain nombre d'informations intéressantes. Ces études, c'est l'étude Medenox 99, l'étude Prevent avec la dalteparine et l'étude Artemis avec le fondaparinux. Vous voyez que ces études, elles ont inclus des patients qui sont des malades toujours âgés de plus de 40 ans, hospitalisés avec une immobilisation d'au moins 3 jours et qui étaient hospitalisés pour à peu près les mêmes motifs, soit une décompensation cardiaque gauche, soit une détresse respiratoire aiguë, soit une maladie inflammatoire ou une infection. Et en plus de ce motif d'hospitalisation, ces malades avaient un facteur de risque supplémentaire qui pouvait être l'âge, les antécédents thromboemboliques ou l'obésité ou un traitement hormonal. Donc vous voyez, c'est une population particulièrement à risque de développer une complication thromboembolique, et c'est dans cette population que la prévention a été évaluée. Donc si on regarde les populations incluses dans ces études, vous voyez des malades qui sont assez âgés, plus de 70 ans d'âge moyen, 5 à 10% avaient déjà fait un événement thromboembolique et environ 10% des malades avaient un cancer connu au moment de l'hospitalisation. Vous voyez ici les motifs d'hospitalisation et les facteurs de risque étaient additionnels et au moins 2 étaient présents chez la majorité d'entre eux. Alors si on focalise sur l'étude Medenox, qui est la première étude, eh bien, quand on regarde ce qui se passe sous placebo, eh bien, pour tous les événements thromboemboliques, donc symptomatiques et asymptomatiques, vous voyez que 15% des malades présentent un événement thromboembolique détecté par la réalisation systématique d'une phlébographie ou d'une échographie veineuse. Quand on s'intéresse aux événements les plus importants et potentiellement emboligènes, donc les phlébites proximales, c'était 5%, et moins de 1% avaient une embolie pulmonaire. La prescription d'énoxaparine à 40 mg par jour réduisait de 63% ce taux d'événement, 5,5%, de 65% le taux de thrombose veineuse profonde proximale, et il n'y avait pas de différence pour l'embolie pulmonaire. Et ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'on testait aussi une demi-dose d'énoxaparine, et là, en revanche, vous voyez que ça fait aussi bien que le placebo, entre guillemets, avec un même taux de complications asymptomatiques, de phlébite proximale ou d'embolie pulmonaire. Donc cette étude concluait que l'énoxaparine à 40 mg était la dose à prescrire en prévention en médecine. Des résultats à peu près similaires ont été observés dans les autres études, où vous voyez qu'à chaque fois, les malades randomisés dans le bras traitement d'altéparine ou fondaparinux présentaient une réduction significative du taux d'événement thromboembolique, asymptomatique et symptomatique, sans augmentation du risque de complications hémorragiques. Et donc, les résultats de ces études est de dire que, globalement, on réduit d'environ 50% le taux d'événements thromboemboliques, symptomatiques et asymptomatiques, sans augmentation significative du risque hémorragique. Alors, toutes ces études ont été bien évidemment méta-analysées dans cette méta-analyse publiée en 2007. Et quand on poule l'ensemble des résultats, eh bien, vous voyez que, si on s'intéresse aux phlébites symptomatiques, eh bien la prescription d'un traitement anticoagulant, alors dans ces méta-analyses, on mettait sous le vocable anticoagulant les héparines non fractionnées, les héparines de bas poids et le fondaparinux, eh bien vous voyez qu'on réduit de plus de 50%, et c'est à la limite de la significativité, le taux d'événements symptomatiques. On réduit significativement l'embolie pulmonaire, là aussi de 57%. Le taux d'embolie pulmonaire mortelle de plus de 60%, sans augmentation significative du taux de complications hémorragiques. Il n'y avait pas d'effet positif bénéfique sur la mortalité. Ensuite, il y a des études qui ont comparé héparine de bas poids moléculaire et héparine non fractionnée. 10 études ont comparé cela. 9 d'entre elles ont fait l'objet d'une méta-analyse qui ont inclus un peu plus de 4500 malades. Vous voyez que le taux il n'y avait pas de différence d'efficacité sur les phlébites proximales, sur les embolies pulmonaires fatales ou non, et par contre, en revanche, une réduction à la limite de la significativité du taux de complications hémorragiques, pas d'effet sur la mortalité. Et donc, le message est de dire que l'héparine de bas poids moléculaire fait aussi bien que les héparines non fractionnées en prévention, mais est d'une part beaucoup plus simple à utiliser et d'autre part est probablement beaucoup plus sûre que l'héparine non fractionnée. Et donc les recommandations nord-américaines de l'ACCP qui ont été publiées en 2012 vous le disent assez clairement, chez les malades hospitalisés pour une raison médicale, qui sont à risque augmenté de thrombose tel qu'on les a définis précédemment, il est recommandé donner un traitement anticoagulant préventif. Les recommandations ne se fixent pas vis-à-vis du type de molécule. On préfère les héparines de bas poids moléculaire pour les raisons dont je vous ai parlé, avec un niveau de grade 1B dont on discutera tout à l'heure à la fin. En revanche, chez les malades qui sont à faible risque de thrombose, eh bien, il est recommandé de ne pas faire de thromboprophylaxie. Il faut prendre en compte également, lorsqu'on prescrit un traitement anticoagulant, même préventif, le risque de complications hémorragiques qui peut survenir. Eh bien, quels sont les facteurs de risque de complications hémorragiques? C'est des malades qui ont déjà saigné, c'est des malades qui ont un ulcère actif ou qui ont des plaquettes particulièrement basses. Ce sont les trois facteurs de risque les plus importants. Et dans cette situation-là, même si on est à fort risque de complications thromboemboliques, les recommandations sont de ne pas prescrire évidemment un traitement préventif. Et dans cette situation-là, où on a même un risque thrombotique élevé, mais un risque hémorragique également important, il est recommandé d'utiliser la thromboprophylaxie mécanique, soit par l'intermédiaire de chaussettes de contention ou bien la compression intermittente, avec un niveau de recommandation qui n'est pas très élevé, 2C, mais on n'a pas de données suffisantes. Et lorsque ce facteur de risque, lorsque le risque hémorragique s'estompe, notamment lorsque, si c'est le cas d'un ulcère gastro-duodénal qui est en voie de guérison, eh bien il faudra prescrire une thromboprophylaxie médicamenteuse et arrêter la thromboprophylaxie mécanique. Alors une autre question importante, c'est quelle durée d'utilisation de la thromboprophylaxie en milieu médical. Et donc ça fait l'objet de trois études. Une étude avec le traitement par les héparines de bas poids moléculaire que je vais vous détailler, et puis deux autres études avec les nouveaux anticoagulants dont je vous parlerai tout de suite après. Avec l'enoxaparine, c'est une étude qui a été publiée en 2010, qui est l'étude EXCLAIM. C'était une étude randomisée contre placebo, dans lesquels les malades hospitalisés et à risque de thromboembolique étaient randomisés pour recevoir d'abord une phase initiale de traitement, comme cela est recommandé dans la CCP, donc de l'enoxaparine 40 mg par jour pendant 10 plus ou moins 4 jours. Et puis à la fin de cette phase où tout le monde recevait une héparine de bas poids moléculaire, les malades étaient randomisés en double aveugle pour recevoir soit poursuivre le traitement par enoxaparine, soit un placebo pour une durée totale d'environ 30 jours. Et on regardait au bout de ces 30 jours les événements symptomatiques et asymptomatiques en faisant une échographie veineuse systématique. Et vous voyez que dans ce papier, la prolongation de la durée de l'anticoagulation par enoxaparine réduit l'ensemble des événements thromboemboliques de manière significative, mais et également les événements symptomatiques, mais ceci au prix d'une augmentation significative du risque de complications hémorragiques majeures, sans effet sur la mortalité. Donc on a d'un côté un effet préventif supérieur, mais un effet hémorragique qui est le prix à payer, et donc on ne recommande pas de prolonger la durée de l'anticoagulation chez ces malades-là. Deux autres études qui ont utilisé deux nouveaux anticoagulants, le rivaroxaban, qui est l'étude Magellan. Alors là, le design est un petit peu différent. Dans cette étude, on prenait des malades à risque d'événements thromboemboliques et hospitalisés, du double aveugle, de l'enoxaparine 40 mg une fois par jour pendant 10 jours, et puis du rivaroxaban 10 mg une fois par jour pendant 35 jours. Et ces malades avaient tous à 10 jours et à 35 jours une échographie veineuse pour rechercher une phlébite. Et le critère de jugement était les événements symptomatiques et asymptomatiques, et qui étaient mesurés à deux périodes, à la fin de la phase initiale, à 10 jours, ou au bout de 35 jours. Alors là, on se comparait à l'énoxaparine, donc on voulait montrer que le rivaroxaban faisait au moins aussi bien que l'énoxaparine. Et puis, une fois que la phase initiale était passée et que les malades étaient sous placebo, on voulait démontrer que le rivaroxaban était supérieur au placebo au bout de 35 jours. Et on évaluait évidemment la tolérance sur les complications hémorragiques. Et là, c'est pareil. Vous voyez que au cours de la phase initiale, on démontre que le rivaroxaban est au moins aussi efficace que l'énoxaparine pour prévenir les événements symptomatiques et asymptomatiques, qu'au bout de 35 jours, on a évidemment une réduction significative du taux d'événements thromboemboliques, là encore symptomatiques et asymptomatiques, mais que cette efficacité se paye en termes de complications hémorragiques, puisque vous voyez que les saignements majeurs, qu'ils soient mesurés au bout de 10 jours ou qu'ils soient mesurés à la fin de l'étude, étaient à chaque fois significativement supérieurs. Des résultats un peu similaires ont été mis en évidence dans l'étude ADOPT, qui évaluait cette fois-ci l'apixaban, un design un peu à peu près similaire. Cette fois-ci, c'est de l'apixaban à 2,5 mg deux fois par jour, donné pendant 30 jours, comparativement à de l'énoxaparine 40 mg pendant 6 à 15 jours. On faisait une échographie veineuse au moment où le malade sortait de l'hôpital, et puis au bout de 30 jours. Là encore, le critère d'efficacité, c'était les événements symptomatiques et asymptomatiques, mesurés à 30 jours et durant la période initiale où les deux médicaments étaient prescrits, et puis la tolérance sur les saignements. Et là aussi, on démontre que l'utilisation de l'apixaban réduit le taux d'événements thromboemboliques, mais qu'il est associé à une augmentation du risque de complications hémorragiques. C'est la raison, les conclusions de ces études sont à peu près comparables. Vous avez, dans cette situation-là, comparativement au traitement curatif, l'utilisation des nouveaux anticoagulants, apixaban, rivaroxaban, se sont révélés décevants en prévention et en médecine, avec une augmentation du risque hémorragique. Et donc, finalement, les recommandations de la CCP sont de vous dire que chez les malades qui sont hospitalisés pour une raison médicale, on débute une thromboprophylaxie dans le sous-groupe à risque, mais pour une durée qui est validée entre 7 et 14 jours. Si le malade reste encore hospitalisé et alité au-delà de 14 jours, on n'a pas de données très claires, mais en pratique, on poursuit l'anticoagulation préventive jusqu'à ce que le malade soit mobile et puisse sortir de l'hôpital. Mais ça, c'est plus de la pratique, de l'accord professionnel, plus qu'un niveau de recommandation. Et puis ensuite, chez les malades qui sont immobilisés de manière chronique, après un accident vasculaire cérébral, après une autre maladie, notamment neurologique, eh bien, il n'est pas recommandé de poursuivre de manière indéfinie la prophylaxie thromboembolique avec un niveau de grade 2C. Alors ensuite, je voudrais, pour terminer, focaliser mon propos sur la prévention dans trois populations particulières, deux populations particulières, les malades avec cancer et puis les malades qui voyagent en avion. Alors, chez les malades avec cancer, vous savez que les malades cancéreux sont particulièrement à risque de complications thromboemboliques. Ça aggrave le pronostic et c'est des malades qui sont un peu plus difficiles à traiter par les anticoagulants en raison d'un risque de complications hémorragiques plus important. Et donc, là encore, c'est une population particulièrement pertinente pour évaluer la prophylaxie de la maladie thromboembolique. Et pour cela, on a des études qui ont évalué les deux stratégies, et les recommandations de la CCP sont chez ces malades qui ont un cancer actif, qui ne sont pas hospitalisés et qui ont un facteur de risque additionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un facteur de risque additionnel en plus du cancer? Ça peut être un antécédent thromboembolique avant que le cancer ne se déclare, une immobilisation en raison d'un très mauvais état général, un traitement hormonal ou un traitement anti-angiogénique, ou le thalidomide, notamment, qui est un traitement fréquemment utilisé dans le myélome. Dans cette situation-là, cancer actif plus facteur de risque additionnel, eh bien, les recommandations de la CCP sont de dire qu'il faut probablement donner une thromboprophylaxie chez ces patients-là, à condition que le risque hémorragique ne soit pas important. Mais vous voyez que le niveau de recommandation n'est pas très élevé, grade 2B. Chez les malades qui ont une chambre implantable pour une chimiothérapie, là, en revanche, ces malades-là ne sont pas de bons candidats à l'utilisation d'une thromboprophylaxie. Enfin, dernière population qui fait l'objet de questions souvent assez fréquentes, ce que sont les voyageurs sur vol long courrier. Vous savez que les vols long courrier, plus de 6 heures ou plus de 5000 km, sont des facteurs de risque modérés de développer une maladie thromboembolique veineuse. Et donc la question se pose de savoir s'il faut éventuellement donner une thromboprophylaxie. Là, les données de la littérature sont globalement quand même de très mauvaise qualité. Et les recommandations de la CCP se sont clairement positionnées pour dire qu'il faut probablement avoir une attitude assez raisonnable, à savoir chez ces patients qui voyagent mais qui ont un facteur de risque de maladie thromboembolique veineuse, probablement donner des conseils très simples, utiliser un siège le long du couloir pour pouvoir allonger les jambes, bouger fréquemment dans la cabine de l'avion et bien s'hydrater. Et chez certains patients, chez certains de ces malades-là, on peut recommander l'utilisation des chaussettes de contention. En revanche, il n'est pas recommandé de donner un traitement anticoagulant préventif chez ces patients-là lorsqu'ils prennent l'avion. Donc, en conclusion, la prophylaxie de la maladie thromboembolique est recommandée chez les malades hospitalisés de plus de 40 ans pour une raison médicale aiguë et qui ont un facteur de risque de maladie thromboembolique veineuse. Donc c'est vraiment une population tout à fait particulière. Le schéma thérapeutique recommandé, c'est une heparine de bas poids moléculaire ou du fond d'aparinux à dose prophylactique et qui sont préférées par rapport à l'héparine non fractionnée. Attention, ces molécules sont contre-indiquées en cas d'insuffisance rénale. Donc dans cette situation-là, on utilisera l'héparine non fractionnée pour une durée de 7 à 14 jours et qui peut être étendue si le malade reste hospitalisé plus de 14 jours. Les nouveaux anticoagulants ne sont pas recommandés en prévention en médecine parce qu'ils augmentent le risque hémorragique. Ensuite, la question qui peut se poser, c'est le faible niveau d'adhérence de ces recommandations en pratique clinique. Et je vous ai rappelé ici les résultats d'une étude française qui montre que 40% des malades dans une enquête, 40% des malades recevaient une prophylaxie de la maladie thromboembolique alors qu'ils les 60% avaient une indication mais ne la recevaient pas. Et donc les cliniciens sont finalement assez frileux vis-à-vis de cette thromboprophylaxie en milieu médical, probablement à juste titre, probablement parce que finalement, comme les résultats que je vous ai montrés, l'efficacité est démontrée pour prévenir majoritairement des événements asymptomatiques. On n'est pas comme en chirurgie où on a une réduction très importante d'événements le plus souvent symptomatiques, avec un effet sur la mortalité. En milieu médical, cet effet, il est probablement un peu plus limité, avec une réduction surtout des événements asymptomatiques, pas de réduction de la mortalité globale, mais c'est vrai, une réduction du taux d'embolie pulmonaire. Et donc, finalement, les recommandations de la CCP que je vous ai montrées ont diminué leur niveau de recommandation. C'était initialement 1A, c'est diminué à 1B. Et on est dans la situation où des études supplémentaires sont nécessaires afin d'évaluer l'efficacité et la tolérance du traitement de la thromboprophylaxie en milieu médical, en se focalisant notamment sur les événements symptomatiques qui sont les événements les plus pertinents d'un point de vue clinique. Je vous remercie.